Allons voir le titre un peu de cette étude biblique, c'est « Ne crains point, petit troupeau ». C'est joli, hein? C'est tiré de l'évangile de Luc. Ce n'est pas un poème que j'ai fait, mais c'est dans Luc, chapitre 12 et verset 35. Et donc, nous allons voir le thème de la crainte et surtout de ne pas craindre. On peut dire que la crainte est un sentiment présent chez tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, depuis la chute d'Adam. Et elle révèle la fragilité et la culpabilité de l'être humain, l'angoisse devant un danger réel ou supposé. Donc j'ai sorti des petites définitions. Et donc on va voir à travers les Écritures un peu l'origine de la crainte, et puis aussi découvrir comment Dieu enlève cette mauvaise crainte, cette crainte qui paralyse, et comment est-ce qu'il la remplace. Donc allons dans Genèse chapitre 3 et verset 10. C'est toujours un passage qui me travaille, c'est l'origine, c'est à l'origine de tous les problèmes, on va dire. Et donc, il faut toujours revenir à la source. Et ça a dû être très très particulier, ce moment de la chute d'Adam et Ève, parce qu'auparavant, ils étaient dans une communion parfaite avec Dieu. Dieu les enseignait, et il n'y avait aucune ombre à cette communion. Juste avant, on voit dans Genèse chapitre 2 et verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Et ensuite, dans Genèse chapitre 3 et verset 10, c'est Adam qui répond à Dieu, Dieu qui l'appelle et qui lui dit « Où es-tu ?» Et Adam qui dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Parce que je suis nue et je me suis cachée. Donc le premier moment où on voit la peur arriver, bien sûr c'est après la chute. Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils en ont mangé parce qu'ils ont écouté le serpent qui leur a dit des choses sur Dieu, sur le caractère de Dieu, qui était faux déjà. Ils ont écouté les mensonges du serpent, tels que le fait que, premièrement, Dieu vous a menti, vous ne mourrez pas. Hein, dans Genèse chapitre 3, verset 5, il dit, mais Dieu sait que alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, quelque part, le serpent, donc Satan, il va contre ce que Dieu vient de leur dire. Donc c'est un mensonge et ils ont cru ça. Et puis la deuxième chose qu'il dit, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Hein. Ce qu'il est dit au verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc quelque part là, c'est le serpent, il envoie un message devant à Adam et Ève et dit mais bien sûr Dieu il ne veut pas de rival. Hein. Donc le caractère de Dieu est vraiment entaché par les mensonges du serpent et ils ont cru ça. Donc on voit que cette peur ensuite que Adam a est issue de ces mensonges qui sont déjà dans sa conscience. Il y a eu aussi qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Leur perception a été complètement changée. La communion a été arrêtée. Et donc tout ça fait que Adam et Ève, premièrement, on sait qu'ils ont fait des ceintures de feuilles de figue là, mais c'était pas suffisant parce qu'après ils sont cachés. Donc si ça avait été suffisant, ils auraient pu se tenir devant Dieu et puis voilà. Mais on sait que quand l'homme essaye de résoudre ses problèmes par ses propres efforts, devant Dieu, sans la solution de Dieu, devant la présence de Dieu, ça ne tient pas, quoi. Donc là, eh bien, ils se cachent, ils ont peur et ils sont en très mauvaise posture, on va dire. Donc, ça m'a pas mal parlé, le fait de savoir que nous avons en fait une image, à cause de la chute, on a une image déformée de Dieu à la base. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, et nous redonne une image, l'image claire de Dieu. Parce que dans notre nature pécheresse, il y a cette déformation et qui fait qu'en fait, on va se cacher de Dieu. Donc ensuite, il a dit parce que je suis nu, donc il a eu la connaissance du bien et du mal, avec donc une inclinaison vers le mal, et aussi le fait que d'avoir cette connaissance du bien et du mal sans la capacité de Dieu en fait. Dieu, lui, a la connaissance du bien et du mal, mais en même temps, il a la puissance et la capacité de gérer toute cette connaissance. L'homme, lui, n'avait pas ça. Dieu, dans son plan parfait, il aurait enseigné l'homme et la femme dans une communion avec lui. Ils auraient appris les choses, mais en dépendant de Dieu. Mais là, ils se sont coupés de leur communion avec Dieu. Et ils ont voulu avoir cette connaissance, gérer cette connaissance, et en même temps, ben, ils n'en avaient pas la capacité. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. On sait que Paul dit dans Romains 7, il dit « Je voudrais faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Le mal que je veux pas faire, je le fais. » Et donc, il y a ce combat de chaque être humain avec le bien et le mal, et cette incapacité d'accomplir même nos propres lois, quoi. Donc donc voilà un peu une quelques origines un peu de la peur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, lorsqu'ils se sont vus nus, c'est venu donc de cette coupure de aussi de la communion avec Dieu, et ils ne marchaient plus par la foi, puisque maintenant c'était la connaissance du bien et du mal qui gérait leur vie, et donc ils ont marché par la connaissance et par la vue, alors que Dieu, il nous appelle à marcher par la foi, et c'est une perspective tout à fait différente, quoi. Parce que marcher par la foi, c'est une confiance qu'on met en Dieu qui connaît toutes choses, qui connaît l'avenir, qui connaît le présent, qui connaît aussi ce que nous ne voyons pas, l'enjeu spirituel. Et donc, si on rentre dans cette marche de foi, eh bien, on est gagnant, en fait. On est, comment dire, un trou. Qui veut m'aider. on participe à cette marche-là, quoi. Cette marche par la foi, et participant aussi de la nature divine, en fait. Donc, dans Genèse 2, 25, on voyait qu'ils n'avaient point honte. Donc là, apparemment, ils ont eu aussi honte. Donc, j'ai essayé de voir un peu ce que la honte, d'où venait la honte, qu'est-ce que ça voulait un peu dire. Peut-être que vous pouvez m'aider aussi. Je n'ai pas la science infuse. J'ai pensé que quand on se sent honteux, parfois c'est en rapport avec notre le fait de ne pas s'accepter comme ayant de la valeur aux yeux de Dieu et aux yeux des autres. On peut aussi avoir honte face aux actes et nos actes et nos pensées qui peuvent être répréhensibles. Je sais pas si vous pensez à autre chose qui peut susciter la honte. Et donc tout ça, ce sont un peu les implications de cette peur originelle. D'autres peurs, il y a la peur bien sûr de la mort, puisque la mort est entrée dans le monde à ce moment-là avec la chute. la mort et ce qui va avec, donc la maladie, la souffrance. Et dans Hébreux 2:10, non, c'est 15. 2:15, je me suis trompée. Ainsi, il délivre tous, en parlant de Jésus, hein, je vais pas tout lire. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. On sait que la crainte de la mort, pour tout être humain, c'est vrai, c'est une servitude, quoi. Et Christ, l'œuvre de Christ à la croix, nous délivre de cette crainte-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je sais ce qui me gêne, j'ai pas mes bonnes lunettes. Attends. Bien sûr, aussi la peur de Dieu pour tout être humain. Moi, je sais que j'étais très travaillée enfant, par rapport à l'au-delà, par rapport à l'existence de Dieu, et j'avais cette conscience de me dire, mais si je me retrouve devant Dieu, je me demande comment est-ce qu'il peut m'accepter, parce que j'avais la conscience de la sainteté de Dieu, la perfection de Dieu, et en même temps la conscience de mon état pécheur. Je connaissais mes pensées, je connaissais mes actes, et donc je me disais comment est-ce que Dieu pouvait m'accepter. C'était vraiment une des choses qui m'ont amené à Dieu et à accepter le salut en Jésus-Christ, parce que je sais que ma justice, ma propre justice, ce que je pouvais présenter devant Dieu était vraiment pâle, j'étais nue par rapport à qui il était, quoi. Donc, quand j'ai entendu le message de l'Évangile et que j'ai compris que c'était Jésus-Christ qui, en mourant sur la croix, offrait le salut, pouvait me justifier, j'ai dit, ça c'est un bon échange, hein, quoi. Et je sais que j'ai pu expérimenter une paix, la paix avec Dieu, et quand il est dit dans 1 Corinthiens d'être réconcilié avec Dieu, cette réconciliation avec Dieu, ce moment avant et ce moment après où on ne sait pas, on est étranger vis-à-vis de la vie de Dieu, même si on y aspire, et puis ce moment où on fait le pas, et puis on sait qu'on est accepté par Dieu, pas simplement parce qu'on croit que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos propres péchés, et qu'il devient notre sauveur, quoi. Et donc, tout être humain a cette conscience si Dieu existe, il est saint et parfait, et moi, c'est sûr que je ne le suis pas. On a la peur de Dieu aussi à travers ses manifestations dans sa création, lorsqu'il y a des tremblements de terre, rien que de voir des éclairs, la puissance d'un éclair, je veux dire, c'est des bombes atomiques multipliées, la puissance de bombes atomiques multipliées par je sais pas combien, c'est extraordinaire de voir à travers la création la puissance de Dieu, et ça amène une peur, c'est vrai, chez l'être humain, ou alors des cataclysmes, des tempêtes où l'homme réalise et qu'il n'est rien, qu'il est tellement petit, et c'est une bonne chose en même temps, parce que il a tellement tendance à s'élever et à croire qu'il est vraiment un petit Dieu qui peut régner sur toute chose. Et donc Dieu permet en fait toutes ces choses-là, cette peur en même temps qui peut être salutaire et qui peut amener donc les gens à plier les genoux devant Dieu, quoi. Il se manifeste on le voit à travers les Écritures, par des visions dans l'Ancien Testament, et puis par la suite dans le Nouveau Testament, des visions de l'ange de l'Éternel, ou alors l'envoi des anges. Et on sait que ça occasionne toujours une peur. Dans Exode 33:20, c'est Moïse, hein, qui veut voir Dieu, qui a une communion avec Dieu, mais en même temps qui a besoin d'être rassuré et d'être sûr que Dieu est avec lui. Et là, il est dit que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Dieu lui dit. Et alors, il dit que je vais passer, mais je vais passer dans ton dos, parce que si tu me vois, tu meurs, quoi. Donc, c'est bon d'avoir cette vision-là, même si ça fait peur. de que Dieu est tout puissant et qu'il est saint. Et aussi on sait que dans Romains 14, 11, que tout genou fléchira. Tous les êtres humains un jour auront un rendez-vous avec Dieu. Et même si sur cette terre ils peuvent être hautains et se moquer de Dieu et vraiment, un jour ils vont fléchir le genou devant Dieu. Ce sera, ils auront aucune possibilité autre, quoi. Donc c'est bien de pouvoir en fait fléchir le genou de manière volontaire dès aujourd'hui, parce que la rencontre sera d'autant plus merveilleuse. Et dans Apocalypse 1, chapitre 16, ça on va vraiment y tourner. Apocalypse chapitre 1, versets 16 à 19. Alors là, c'est Jean, un des disciples de Jésus, qui a une vision de Jésus-Christ. Et on va peut-être pas tout lire, on va pas lire toute la description de Jésus, mais à partir du verset 16, donc il parle de Jésus, il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Donc Jean, il a une vision de Jésus-Christ dans sa gloire. Et je trouve cette vision assez extraordinaire. Je ne sais pas si on le verra de cette manière-là lorsqu'on sera devant lui, mais en tout cas pour Jean, ça a été assez marquant puisque donc il est tombé comme mort et la parole de Jésus ne craint point et ça va vraiment rejoindre notre thème. Le terme utilisé dans la plupart des endroits où il est parlé de ne pas craindre ou de craindre. En grec, c'est phobéo. Il y a pas de termes très différents. Donc, on sait qu'en français, on a tiré le mot phobie. Donc, c'est vraiment une peur, une terreur. Et donc, Jésus qui dit « ne crains point ». Alors, on va voir d'autres passages où Jésus ou alors des anges qui sont envoyés, qui vont dire ces paroles-là, ne crains point. Je sais que un soir, je méditais sur Dieu et puis Dieu m'a montré tous ces versets-là et ça a été tellement un réconfort pour moi. Ne crains point. Ça a été une parole libératrice pour ma communion avec Dieu. Et j'espère que je vais pouvoir un petit peu communiquer ce que ça a pu déclencher en moi. Déjà, le fait qu'il nous dit ne crains point, ça nous montre qu'il nous connaît. Il sait que nous avons des craintes. Il sait que, il est dit dans Psaume que nous ne sommes que poussière. Et donc, il nous prend là où nous sommes. Et dans Matthieu 1:20, là c'est un ange qui parle à, qui s'adresse à Joseph. Matthieu, et il est dit, ne crains point de prendre Marie comme femme. Donc, il est très troublé. Joseph, il sait que Marie est enceinte et il veut pas diffamer Marie, il veut pas qu'elle soit lapidée. Donc, il est vraiment très troublé. Donc, c'est Gabriel, je pense. qui vient et qui lui dit, donc là c'est plutôt ne crains point de faire cette chose-là, mais je pense que ça a été la même parole de réconfort et de paix qui a été déposée dans le cœur de Joseph. Je sais pas si vous avez vu le film de la Nativité, c'est un bon film quand même. Bon, y a certaines petites interprétations, mais vraiment ça nous montre, ça nous remet vraiment dans le contexte, quoi. Ce que Marie a pu vivre en tant que jeune fille adolescente qui tombe enceinte et tout ça. Enfin, quand on le lit, parfois on oublie le contexte, quoi. Ça devient presque ouais une histoire comme ça qu'on a l'habitude d'entendre, mais quand c'est replacé dans un contexte, on se dit waouh, il fallait que Dieu vraiment soit là, parce que c'est quelque chose de très très inhabituel. Et donc là pour Joseph aussi, et donc Dieu lui parle au travers de la venue de cet ange. Et ensuite maintenant c'est dans Luc chapitre 1 11 à 13. En fait, tout autour de la naissance de Jésus, on va voir l'intervention de l'ange Gabriel. Donc ça, c'est l'ange Gabriel qui va voir Zacharie, qui est en train de servir Dieu dans le temple. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. » Donc on a toute cette chose. Donc comment l'ange arrive, c'est vrai que jamais un ange est venu personnellement me parler, mais c'est quand même être une expérience assez flippante, avec tout le respect que j'ai de Dieu et de ses envoyés, mais ne crains point. Mais c'est vrai que la relation avec Dieu, enfin avant que Dieu nous parle, c'est ne crains point d'abord. C'est pas viens tremble devant moi et enfin c'est d'abord soit dans une bonne attitude, enfin c'est pas dans une, c'est comme un peu comme on peut parler à un enfant. Comment un enfant va être réceptif s'il est déjà dans un climat de confiance? On va pas venir et puis premièrement l'humilier et puis ensuite s'attendre à ce qu'il soit réceptif. On crée un climat de confiance et puis là il y a vraiment une réceptivité, et Dieu est pareil vis-à-vis de nous. Ne crains point. Et concernant Zacharie, on sait que lui il a douté, hein, il n'a pas une attitude très 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 glorieuse, mais en même temps ensuite il a chanté un cantique quand son fils est né, dans Luc 1 74. Et il est dit, donc il parle un peu de ce que Jean, du ministère de Jean, de ce qu'il fera et puis ce que Dieu fera au travers de lui. Il dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Et là, on a le terme aphobos. Alors j'ai trouvé ça intéressant, comment il a cette vision du ministère de son fils, et de ce que Dieu va faire au travers donc de Jean et puis après de Jésus-Christ. Et le but, c'est de servir Dieu sans crainte, sans ce qu'il avait en fait à l'origine. Dans Luc 1:30, donc là l'ange Gabriel va voir Marie pour lui annoncer donc qu'elle va porter le Fils de Dieu. Donc il lui parle d'abord. Et puis donc elle est aussi troublée, même plus troublée apparemment dans le terme grec que Zacharie, mais bon on peut un peu le comprendre. Et donc l'ange lui dit ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et puis une autre catégorie de personnes dans Luc 2:10, à qui l'ange du Seigneur va parler, ce sont les bergers. Luc 2:10. Mais l'ange leur dit, un ange du Seigneur, d'abord verset 9, leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et donc pareil, cette première la présentation, ne craignez point, et pour pouvoir recevoir. Et comme je disais, chaque fois que Dieu se manifeste dans nos vies ou qu'on vient à lui, il nous dit ne crains point. Et je sais que pour ma manière de venir à Dieu, après une journée d'échec, une journée de frustration, enfin, on connaît tout ça, le fait que de savoir que quand je viens à Dieu, il me dit « ne crains point », c'est quelque chose qui m'encourage. Il y a d'autres passages où il est parlé de ne pas craindre. Dans Marc 5, 36, Jésus s'adresse à Jaïrus. Jaïrus était le chef de la synagogue. Il était allé voir Jésus parce que sa fille était très malade. Elle était sur le point de mourir. Et des gens viennent voir Jaïrus, des gens, et ils viennent apprendre à Jaïrus que sa fille est morte. Et donc Jésus dit « ne crains point, crois seulement ». Et on sait que Jésus ensuite va opérer un miracle et rendre sa fille à Jaïrus. Donc Dieu nous encourage et dit de ne pas craindre ce qui peut être autour de nous et qui peut être une source de terreur ou mais de croire, de vraiment d'entrer sur le champ de foi. Ensuite, dans Luc 5, 10, c'est à Pierre que Jésus s'adresse. Il dit, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alors, juste avant, il y a eu une pêche miraculeuse. Ils avaient pêché toute la nuit, n'avaient rien rapporté. Jésus leur dit, jetez le filet de ce côté. Et il y a eu une pêche miraculeuse. Et là, Pierre, il flippe là aussi, il réalise son état. Et il tombe à genoux de Jésus juste avant, verset 8. Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Et l'épouvante l'avait saisi. Et on peut... dans notre relation avec Dieu, c'est un peu ce paradoxe. C'est vrai que on réalise notre état et en même temps, on n'est pas condamné. Ce que Jésus dit, ne crains point. Et en plus, il lui dit, tu seras pécheur d'homme. Donc, carrément, il lui donne un appel spirituel. Il lui dit ce qu'il deviendra. Alors que là, pour l'instant, il réalise qu'il est un pécheur et il est dépravé, il est étranger de Dieu, il est ennemi de Dieu. Et donc, il se dit, mais normalement, ce que tu devrais faire, Dieu, c'est de te retirer de moi. Tu peux pas être en contact avec un pécheur comme moi. Et Jésus dit, ne crains point. Ensuite, dans Luc 12, on reste un peu dans cet évangile, il est dit de ne pas craindre aussi pour nos besoins matériels. Il est parlé des passereaux. Il dit, je sais quand un passereau tombe par terre et vous valez plus que des passereaux. Et je sais combien de cheveux sont sur votre tête. Donc, vous avez de la valeur à mes yeux. Et donc, ne craignez pas. Dieu nous connaît nos besoins. Luc 12, mais j'ai pas exactement les versets. Ouais. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Et même vos cheveux sont tous comptés. Et ensuite, au verset 32. Ah non, je m'étais trompée. Verset 32. Ne crains point, petit troupeau. Donc ça rejoint mon beau titre. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et je trouve ça assez drôle qu'il appelle ses disciples un petit troupeau. Un petit troupeau, franchement, par exemple devant une armée ou quoi, c'est ridicule quoi. Un petit troupeau, il a besoin d'être dirigé par un berger, par des chiens, il a besoin d'être protégé des loups, des ours, et Dieu dit ne crains pas petit troupeau. Et qu'est-ce qu'il donne au petit troupeau? Il lui donne le royaume. Alors c'est un petit troupeau qui va administrer et amener le royaume de Dieu. Je trouvais ça très paradoxal et en même temps très beau, parce qu'on peut vraiment se considérer comme une brebis, un petit agneau, une brebis bête, hein, parce qu'on sait que que les brebis sont pas très intelligentes, hein, et c'est pour ça qu'elles ont été choisies par Jésus comme exemple, et en même temps c'est quand même mignon, quoi. Donc on peut comprendre la condescendance de Dieu à travers cette image. Donc ça fait du bien, ça fait du bien d'être appelé le petit troupeau de Dieu, la petite brebis du Seigneur, et de savoir que Dieu me donne le royaume, et parce qu'en fait j'ai un Dieu très grand derrière moi. Moi je suis toute petite, mais c'est un grand Dieu qui agit à travers moi. Aussi dans Jean 12, 15, il dit « Ne crains point, fille de Sion ». C'est lorsque Jésus arrive à Jérusalem et qu'il est monté sur un ânon. Et on sait que à ce moment-là, on voit cette image de Jésus qui pourrait être le roi, puisque les gens disent « Hosanna », ils mettent leurs vêtements par terre comme pour annoncer la venue d'un roi, mais qu'en même temps, ce roi, quelque temps après, sera crucifié, sera bafoué, sera rejeté, mais c'est le roi glorieux que Dieu a choisi pour son royaume, quoi. Donc, il dit ne crains point, parce que ce roi-là, il vient et il est présent dans nos vies. Et aussi dans Matthieu 28, versets 5, 10 et 8, et c'est lorsque les femmes sont au tombeau de Jésus et que Jésus est ressuscité. Là aussi, ça a dû être une expérience assez fabuleuse. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Tiens, j'avais même pas vu vraiment ce verset comme ça. Ceux qui cherchent Jésus qui a été crucifié n'ont rien à craindre. Parce qu'en fait, ils sont bénéfices de l'œuvre de Christ et de la parole puissante de Dieu qui enlève toute crainte, quoi. Donc je me suis dit, comment les anges, Jésus, ont pu dire ne crains point? Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, cette parole de ne pas craindre? Parce que c'est sûr que par nature, nous sommes ennemis de Dieu, nous sommes pécheurs, nous échouons constamment. Et donc, il n'y a que la crainte qui peut remplir nos cœurs, quoi. Et donc, quand Dieu nous dit « ne crains point », cela sort de son cœur d'amour parfait. Et ça, on va le voir dans 1 Jean 4, 18 et 19. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et donc là, en fait, c'est vraiment le verset clé qui peut nous faire comprendre que Jésus peut dire « ne crains point » parce qu'en fait, lui, il nous voit dans son amour. Il nous voit dans ce qu'il a fait aussi pour nous. Un peu avant, au verset 9, il est parlé justement de cet amour, de l'amour de Dieu, en quoi il consiste. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc c'est vraiment là la clé. Dieu nous a, après il est dit aussi dans verset 20, 19, pardon, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il nous aime, il nous a aimé le premier. Il peut nous dire ne crains point parce que je t'aime, je t'ai aimé le premier. Avant que, quand tu étais ennemi de Dieu, quand tu bafouais mon nom, et encore aujourd'hui, parce qu'on peut encore se trouver dans ces attitudes-là, parce que nous sommes pécheurs par nature et nous le resterons jusqu'à la fin de nos jours, on sera délivrés simplement à la résurrection. Mais Dieu dit, je t'ai aimé le premier. Et donc, lorsqu'il est allé sur la croix, il a prouvé cela. Il n'a pas attendu que les hommes le reconnaissent pour mourir sur la croix et pardonner tous les péchés de l'humanité. Mais il l'a fait par amour, dans son amour parfait. Il nous a aimé le premier. Le châtiment dont il est parlé là, par rapport à la crainte, ce châtiment, c'est Christ qui l'a pris sur son corps. Donc devant l'œuvre de Jésus-Christ, il n'y a plus de crainte d'avoir échoué. Parce que il m'aime le premier, quoi. De ne pas se sentir accepté, parce qu'il m'aime en premier, quoi. De ne pas être à la hauteur. Tout ça, toutes ces craintes-là qu'on peut avoir. Si je me rappelle que Dieu m'a aimé le premier, avant que je puisse accomplir quoi que ce soit, il m'aime en premier, quoi. Et son amour est inconditionnel. Il ne dépend pas de ce que je peux faire ou accomplir. Il n'est pas diminué parce que je peux faire de mal, mais il s'est donné pour moi. Et donc, si j'entre par la foi dans dans l'œuvre qu'il a accomplie, eh ben, je suis au bénéfice de cet amour qui me libère de la crainte, des dangers. Comment on peut expérimenter la paix de Dieu dans les dangers? Parce qu'il m'a aimé le premier. Il connaît ma situation. Il pourvoit aussi. Et comme on l'a vu auparavant, aussi par rapport à la mort, nous vivons par lui, en fait. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons cette espérance que la mort n'est pas une fin en soi, mais que nous avons une espérance, nous avons la paix avec Dieu. Nous serons accueillis par Dieu. Et où est-ce que je voyais? Tel il est, tel nous sommes. Ah oui, lorsqu'on ne se sent pas à la hauteur, on peut vraiment méditer. Le verset 17, toujours dans 1 Jean 4. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Je trouvais ça assez beau comme image de venir au jugement de Dieu avec assurance. C'est-à-dire que quand vraiment nous saisissons la grandeur de l'amour de Dieu et que simplement on l'accepte et qu'on s'en enveloppe, eh bien, on peut vraiment avoir cette assurance devant même le juge de la terre, et on sait qu'on ne sera pas condamné parce que nous sommes dans l'amour de Dieu, dans l'œuvre que Christ a fait. Et dans Romains 8:15 aussi, il nous est dit que Dieu nous a pas donné un esprit de crainte, de timidité, mais et aussi toujours dans 1 Jean 4, on n'a pas lu tous les passages, mais il est dit au verset 13 que nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons reçu l'esprit de Dieu le jour où nous avons reconnu notre besoin pour le Sauveur, que nous avons reconnu que nous étions pécheurs et que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Simplement, nous avons dit « Sauve-moi, Jésus ». Et la Bible dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est pas une catégorie inférieure à Jésus-Christ et à Dieu le Père. C'est Dieu lui-même, quoi. C'est Dieu lui-même qui est venu habiter en nous. Et ça, c'est quelque chose et qui est avec nous chaque jour, quoi. C'est quelque chose d'incroyable. Et donc, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, ce n'est pas un esprit de crainte, c'est vraiment un esprit de victoire. Je n'ai pas le passage en tête. Quelqu'un le connaît par cœur? ne nous a pas donné un esprit de crainte. Ah oui, par lequel nous crions Abba Père. 8:15, ouais. Romains 8:15. Là, je vais peut-être aller un peu vite avec les versets. Je ne suis pas allée les voir les uns après les autres. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et c'est vrai que le fait d'expérimenter l'amour parfait de Dieu, l'amour premier de Dieu, fait qu'on se sent, on expérimente aussi l'adoption et le fait que Dieu est vraiment notre Père, quoi. Donc voilà. Donc cette crainte qui pourrait vraiment paralyser nos vies, qui est vraiment l'héritage du péché, on peut dire qu'on peut laisser Jésus nous dire ne crains point. Chaque fois que nous venons à lui, ou que lui vient à nous, parce que son amour parfait manifesté à la croix chasse réellement toute crainte.